RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Encore 6 soirs de concert en France pour Céline Dion qui est en tournée chez nous pour la première fois depuis plus de 20 ans. La diva fait une halte à Bercy. Steven Bellery était dans la salle hier soir. Son compte rendu dans un instant. Parmi les nouveautés au cinéma ce mercredi, le troisième volet de la saga Moi, moche et méchant, qui risque fort d'agiter le box-office. Et côté français, le coup de cœur de Stéphane Boutsock pour Les Hommes du Feu, le nouveau film de Pierre Jolivet. Charlotte Arrigoni nous livrera ses express du jour. Et puis côté télé, le programme court de M6 en famille, diffusé à 20h25. Remporte un franc succès, il sera suivi ce soir par la finale du jeu Le Meilleur Pâtissier. Spéciale célébrité, ce seront les choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Et nous commençons donc en musique pour la première fois depuis 1996. Céline Dion est en tournée partout en France. La chanteuse a lancé jeudi dernier à Bordeaux une série de 10 concerts en France. Son dernier album, Encore un soir, a séduit près de 900 000 acheteurs en moins d'un an. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, elle chantait à Paris il y a pile un an. Et là, voilà, Céline Dion a donné hier le premier de ses 4 concerts dans la capitale.
Oui, c'est en top et pantalon noir, rehaussé d'une veste argentée, que Céline Dion débarque sur scène. 20 musiciens, 3 choristes et une mission, nous emmener dans un autre monde. Céline Dion dévore la scène d'emblée. Elle se promène dans tous les coins, salue ses fans. On la sent libérée, moins fragile que l'an dernier. Elle enchaîne avec le puissant Terre et prend la parole.
Il y a un peu là, presque jour pour jour, nous étions ici avec un concert presque intime pour traverser une période très difficile. Et vous m'avez soutenue jusqu'à la dernière note. Et je vous en remercie encore. C'est sûr qu'il était hors de question de revenir à Paris cette année pendant notre tournée européenne. Je suis parisienne dans mon ADN.
Suivent 2 heures de concert, 22 morceaux, une liste francophone à 80%. Céline Dion pioche dans l'album S'il suffisait d'aimer.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi.
Puis dans le disque 2. Son chant est musclé, énergique, presque trop démonstratif en début de show. Elle ne revisite que 4 morceaux de son dernier opus, L'Étoile, À vous, Si c'était à refaire et le titre éponyme.
On attend qui tue le temps, tant et tant qu'il est perdu le passe, tant qu'il se ment, inventant les rêves dans un instant de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre.
Et alors Steven, Céline Dion avait réservé quelques surprises à son public.
Oui, à commencer par une chorégraphie endiablée. Après une pause, la star réapparaît allongée, la tête à l'envers sur une chaise, vêtue d'une combinaison intégrale moulante ultra sexy. Elle interprète une rareté, un morceau qu'elle n'avait pas chanté en France depuis 1996, le ballet. Débute un corps à corps torride avec un danseur, une image rare, une facette qu'on ne soupçonnait pas chez Céline Dion. C'est assurément l'un des temps forts de ce tour de chant calibré, mais musicalement riche, notamment le travail des cordes. Céline Dion mélange Zora Souris et Man in the Mirror de Michael Jackson, offre un medley un petit peu bancal de Refuse to Dance, Love is All We Need et Black or White, encore un morceau du roi de la pop dans lequel on voit quelques secondes son fils René Charles rapper dans une vidéo.
Protection. Oh, c'est pas trop mal.
Hein. Ouais, pas mal.
Céline Dion offre enfin quelques moments de douceur.
Ziggy, il s'appelle Ziggy.
Ziggy, puis sa chanson préférée.
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer.
Elle est patte sur tous les blues sont écrits pour toi, enchaîne Love Can Move Mountains et River Deep Mountain High, puis soudain descend dans la fosse, traverse la salle et termine la soirée debout près de la régie technique avec une version guitare-voix de Pour que tu m'aimes encore, un moment suspendu qui a ravi son public à la sortie.
Magique, elle est naturelle, elle est humaine.
Elle a une voix merveilleuse, pour moi c'est la plus belle voix du monde.
Tellement waouh.
Plus beau concert qu'elle ait fait, parce que je trouve qu'elle se permet d'interpréter ses chansons comme jamais. On la sent encore attristée et meurtrie, mais elle en fait quelque chose d'extraordinaire, comme elle est en fait.
Il y a quelques fois c'est comme des performances, donc on est là ébahi, et d'autres fois c'est tout en nuances, et ça m'a beaucoup touchée que c'est la patronne.
C'est la patronne, elles peuvent tous aller s'acheter un tailleur, hein, parce que il n'y a personne qui lui arrive là.
Elle nous a régalé, vraiment.
J'avais parié l'an dernier que ça deviendrait un classique de son répertoire. Eh bien, elle rechante The Show Must Go On. Céline Dion ose, élégante, toujours aussi surprenante. Elle chante encore mercredi, samedi et dimanche à Paris-Bercy, le 12 juillet au Stade de Lyon, le 18 juillet au Vélodrome à Marseille et le 20 juillet au Stade de Nice.
Quel concert, hein, quel show, compte rendu signé Stephen Bellery. Merci. Les applaudissements se sont terminés, mais Isabelle Morini-Bosque fait son entrée pour les audiences toutes chaudes qui viennent de tomber.
Oui.
Oui,
chaude comme le temps, ce qui fait qu'il y a toujours moins de monde devant la télévision quand il y a beaucoup de soleil dehors. Donc Camping Paradis, 4 500 000 pour une rediffusion, c'est pas mal du tout, 20% du public sur la une. En deuxième position, Tandem, le feuilleton populaire de la 3 qui se terminait hier, 3 500 000, c'est un joli score, 17% du public sur France 3. Et en troisième position, Quantico, allez, quasiment 3 millions de téléspectateurs et 14% du public sur M6. C'est pas une débâcle, c'est pas un franc succès, c'est pas mal. Et côté TNT, le grand chemin, 730 000 téléspectateurs ont vu la rediffusion sur W9, c'est un joli score.
Isabelle Morini-Bosque, on vous retrouve tout à l'heure pour le programme télé, le programme ciné, c'est dans un instant, c'est mercredi évidemment, Stéphane Boutsock est avec nous, à tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
Jérôme Chapuis jusqu'à 9h30.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Comme chaque mercredi, nous allons passer en revue les sorties cinéma du jour avec vous Stéphane, mais avant tout un coup d'œil au résultat du box-office des 7 jours écoulés, dites-nous ce qui a marché. Ou pas.
Alors, grâce au dernier jour de la fête du cinéma, c'était mercredi dernier, et puis au mauvais temps de ce week-end sur la moitié nord, eh bien, les salles ont retrouvé leurs spectateurs. Près de 900 000 entrées pour Transformers 5. Baywatch, alerte à Malibu, résiste bien en deuxième semaine et passe largement le cap du million. Tout comme Tom Cruise avec La Momie, mais lui, c'est en 3 semaines. Et puis Wonder Woman atteint le 1 850 000 en un mois. Pour les nouveautés, notez le très joli score du formidable documentaire Visage, Village, Agnès Varda et JR, déjà 75 000 entrées pour ce genre de film, c'est pas mal du tout. Et puis, parti doucement, Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, et j'en suis ravi, progresse cette semaine et atteint désormais les 550 000 entrées.
On en vient donc aux nouveautés à l'écran ce 5 juillet, Stéphane, et pour commencer, la grosse sortie du jour, Moi, moche et méchant. 3.
On en a parlé lundi, je vous redis tout le bien que je pense de ce film d'animation qui prolonge avec intelligence, vivacité, originalité des aventures entamées en 2010. On retrouve donc dans ce troisième volet la famille recomposée de Gru, ex-vilain devenu gentil, père adoptif de 3 fillettes mariées à Lucie, une espionne. Virés tous les deux des services secrets au début du film, ils vont faire la connaissance de Drew, le frère jumeau de Gru, et affronter, oui, ils sont forts sur les prénoms, et affronter un vrai méchant pour le coup qui s'appelle Balthazar, Bart, gravement scotché dans les années 80. Extrait.
Salut Gru! Comment se passe la transition? Tu sais, ton passage de pire méchant du monde à pire agent du monde?
Oh, hilarant! Tu devrais passer à la télé.
Ah, c'est vrai?
C'était ton métier? Avant que tu sois viré. Et ça? Combat de danse!
Alors, ce qui est drôle, comme le film est très scotché années 80, c'est que David Marseille qui double le méchant. On entend singe, tous les tics vocaux de Michael Jackson dans cette scène qui est vraiment épatante. Et côté musique, on a parlé des tubes. Et bien, voici un autre. « Jump, le tube de Van Halen 1984, qui rythme lui aussi Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin et Kyle Balda, avec les voix de Gad et Ariel Mallet, David Marseille, je vous l'ai dit, mais aussi Audrey Lamy, sans oublier évidemment nos mignons qui ponctuent de leur crétinerie géniale sur le troisième volet. Et je rassure leurs fans, ils auront droit à la suite de leur propre film qui était sorti en 2015, qui était assez moyen. Espérons que le 2 sera mieux.
Du côté des sorties françaises, Stéphane, vous avez beaucoup aimé Les Hommes du Feu, le nouveau film de Pierre Jolivet.
Très beau, très juste portrait du quotidien des sapeurs-pompiers. L'histoire se déroule dans une caserne du Sud-Est où arrive une jeune femme, nouvelle recrue, découvrant un monde d'hommes, mais aussi des conditions de boulot rudes, entre le combat contre les incendies et les interventions dans des quartiers difficiles, les intrigues de vestiaire, une vie personnelle difficilement compatible avec une disponibilité quasi permanente ou encore des contingences sociales qui font que certaines casernes sont menacées de fermeture ou de regroupement, un thème qui rejoint le cinéma de Pierre Jolivet, observateur de son époque, déjà dans des films comme Ma petite entreprise, Fred ou Jamais de la vie.
Avec les resserrements des budgets des collectivités et des locales, les arbitrages financiers se font aussi sur les pompiers. C'est normal, et ça manque d'argent de partout. D'ailleurs, dans la scène de nuit de la manif dans la cité, c'est notre propre camion qui est tombé en panne. J'ai failli foutre en l'air toute la séquence, qu'on n'a qu'un seul camion à la caserne. Quand je dis notre camion, parce que c'est devenu ma caserne, j'ai passé 3 mois. Et c'est vrai que je les entendais dire depuis 2 mois, putain, quand est-ce qu'il nous le change, ce camion, il va nous laisser tomber un jour et on en aura vraiment besoin. Et forcément, le camion, il est bien tout peint, il est tout clean, sauf qu'à l'intérieur, il a 30 ans, quoi. Donc, c'est des questions qui se posent en permanence, des arbitrages, est-ce qu'on rachète un nouveau camion, combien ça coûte, voilà. Et évidemment, dans mon cinéma, c'est vrai que ça collait bien parce qu'ils sont dans la réalité. C'est pas des intellectuels, les pompiers. J'ai pas voulu faire un film qui psychologise. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, point à la ligne. Simplement, dans la vie de tous les jours, c'est des êtres imparfaits qui ont des failles, et c'est ça que je voulais montrer.
Et puis l'autre intérêt de ces Hommes du Feu, c'est la fascination que nous éprouvons tous pour le feu. L'immense majorité admire sa beauté. Une infime minorité, heureusement, en fait une arme de destruction, ravageant terre, forêt, maison, blessant ou tuant les êtres humains. Et bien, face à ce péril, les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, filmés donc dans le film par un Pierre Jolivet, lui aussi spectateur des flammes.
Dans la caserne où j'écrivais le film, je suis resté une semaine avec eux, vraiment pour vivre les choses avec eux, et j'ai eu la chance qu'il y ait un feu. Et donc, je les ai vus partir au feu, j'ai vu cette exaltation, j'ai vu cette montée d'adrénaline. Les pompiers, quand même, les héros qu'ils sont, leur adversaire principal et le plus chic, c'est le feu. Ça, c'est le vrai combat, quoi. Et après, en parlant avec eux, le soir, ils m'ont montré plein de petites vidéos qu'ils avaient faites. C'était une caserne dans le sud, dans les grands feux. Des images incroyables, dans les flammes. Et je dis, mais c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux. Je veux pas le gros truc en numérique à l'américaine où on rajoute des effets spéciaux dans tous les sens. Non, non, rien qu'à regarder le truc, j'étais en sueur à regarder les images qu'il me montrait. Donc évidemment, là, ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'on trouve des hectares enflammés, qu'on puisse sécuriser et qu'on fasse monter les flammes à 10 mètres. Et c'est des vraies flammes, c'est du vrai feu. Et là, on a eu chaud, chaud, chaud. Mais cette sensation de chaleur que vous avez, c'est celle qu'ils ont dès qu'ils ont au feu. Quand il approche et quand on est dedans, c'est d'une violence, mais incroyable. Sauf que c'est beau, ça sent bon, c'est un beau son, c'est ça, c'est la beauté du diable, le feu. Et je voulais avoir cette sensation.
Et il l'a eu. Pierre Jolivet, réalisateur des Hommes du Feu avec Roche Dizem, Émilie Dequesne et un casting formidable d'ailleurs du premier au tout petit rôle. Je vous signale aussi la sortie de Embrasse-moi par Océane Rosemary qui adapte son spectacle La Lesbienne Invisible qui avait triomphé partout en France en 2009 et 2010. Malheureusement, quelques poncifs, des clichés et puis une mise en scène assez plan-plan rendent commune l'histoire de cette jeune femme tentant de conquérir celle qu'elle croit enfin être la femme de sa vie. Joli casting pourtant. Océane Rosemary Marie elle-même, mais aussi Alice Paul ou encore Grégory Montel.
On termine, Stéphane, par un cours d'histoire en forme de film, Le Dernier Vice-Roi des Indes.
1h35 pour suivre les premiers pas de la nation indienne auprès de Lord Mountbatten, chargé en 47 par la couronne britannique de préparer le départ du pays colonisateur après 300 ans de présence britannique. Transition compliquée par les rivalités religieuses entre hindous et musulmans, habitée par la figure de Gandhi, qui conduira aussi à la création du Pakistan et au total à la mort 1 million de personnes. Alors c'est passionnant, joliment filmé et joué notamment par Gillian Anderson, rappelez-vous la lieutenant Scully de la série X-Files. Seul regret, la naissance de la République indienne aurait mérité une fresque ou une série d'ailleurs, pourquoi pas. Eh ben là ça va un petit peu vite, à force de raccourcis. Et puis je vous signale un formidable polar égyptien, ça s'appelle Le Caire Confidentiel, qui raconte comment on est à la veille de la révolution 2011. Un policier va être amené à enquêter sur le meurtre d'une jeune chanteuse dont l'assassin pourrait bien être un proche du président Moubarak. Une course contre la montre, l'appareil d'État et l'histoire commence alors. C'est haletant, remarquablement mis en scène par Tariq Saleh, et ça, c'est à voir.
Merci Stéphane Boutsock.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte Arrigoni.
Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
C'est encore loin, mais on connaît déjà la date de la prochaine Nuit des Césars.
Oui, et la 43e édition aura lieu le vendredi 2 mars 2018. Un événement que l'on vous fera vivre bien sûr sur RTL.
Alors c'est une semaine plus tard que d'habitude parce qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui se terminent la semaine d'avant.
Mais bien sûr, précision de Stéphane Boutsock. Que donne le palmarès hebdomadaire des meilleures ventes de livres avec le magazine L'Express et RTL ?
Dans la catégorie roman, Quand sort la recluse de Fred Vargas est toujours numéro 1. La Tresse, le premier roman de Laetitia Colombani, gagne encore une place cette semaine et se classe deuxième. Vernon Subutex 3 de Virginie Despentes complète le trio de tête.
Et j'ajoute que Laetitia Colombani sera l'invitée de Laissez-vous tenter demain, jeudi, pour nous parler de ce roman donc qui est en passe de devenir le best-seller de l'été.
Du côté des essais et documents, le classement donne dans l'ordre La vie secrète des arbres de Peter Volben, Une très légère oscillation de Sylvain Tesson et Un été avec Machiavel de Patrick Boucheron.
Palmarès complet à retrouver dans les colonnes de l'Express. La Mente, c'est le titre de la série événement que TF1 diffusera à la rentrée.
Oui, série dans laquelle Carole Bouquet interprète le rôle d'une tueuse en série contrainte de sortir de sa prison pour collaborer avec la police. Problème, elle n'acceptera de collaborer que si c'est son fils Fred Testo qui s'occupe de l'enquête. TF1 a présenté hier cette nouvelle série, l'occasion pour l'actrice de raconter tout le plaisir qu'elle a eu à s'engager dans ce projet.
Moi, j'adore faire de la télévision parce que je trouve qu'il y a énormément d'imagination à la télévision, énormément de liberté, que l'écriture est de plus en plus libre. Donc, si c'est bien, voilà, on y va. Hein. C'est formidable de pouvoir travailler sur la durée. C'est très amusant à faire, c'est très divertissant à faire, très amusant, très, très satisfaisant.
Carole Bouquet au micro RTL de Laurent Marsic. La Mente arrive donc à la rentrée sur TF1. Il y aura 6 épisodes de 52 minutes.
Le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas manqué d'évoquer la culture hier dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale.
Oui, le locataire de Matignon annonce la future mise en place d'un pass culture de 500 euros disponible pour les jeunes dès leurs 18 ans. L'argent permettra alors de financer des entrées dans des musées, des monuments historiques, des places de spectacle, de concerts, de cinéma ou encore des livres. Et puis pour les plus jeunes, eh bien, Édouard Philippe souhaite que les enfants du primaire se voient proposer une pratique artistique, à être dans un orchestre par exemple, faire de la danse, de la chorale ou encore du théâtre.
C'est l'un des films les plus attendus de l'année, Valérian de Luc Besson, qui va sortir le 25 juillet prochain.
Adaptation de la BD futuriste, une très grosse production à près de 200 millions d'euros. Luc Besson était hier soir en exclusivité sur RTL. Le 1, ça c'est fait. Et la suite alors ?
J'aimerais énormément faire le 2 et le 3, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fini d'écrire le 2 et je suis en train d'écrire le 3. Et je ne le fais pas par superstition parce que d'abord, si ça ne marche pas, on ne les fera jamais. Mais ce n'est pas grave parce que je suis très heureux de les avoir écrits quand même.
Donc Valérian 3 est déjà écrit.
Le 2 complètement et le 3, je suis au milieu.
Luc Besson avec Marc-Olivier Fogiel en exclusivité pour
et
RTL.
Et on parlera lundi matin de l'événement Valérian que j'ai eu la chance de voir, qui est vraiment très 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 réussi. Grand film de science-fiction avec toute l'équipe, Luc Besson et notamment les auteurs aussi de Valérian, Christin et Mézières. Ça sera lundi.
On a hâte. Stéphane Boutsock, merci beaucoup. Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. On marque une pause, on revient dans un instant pour la télé avec Isabelle Morini-Bosque. On reste en famille, vous allez voir.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter
avec Jérôme Chapuis
et Isabelle Morini-Bosque. Alors Isabelle, on se concentre, paraît-il, ce matin sur M6 avec d'abord la fiction en famille, Kézako.
Ah bah déjà, vous avez bien fait de dire Kézako. Ça fait un peu breton, Kézako, Kénavo. Or, en famille, précisément, c'est une fiction qui montre le quotidien d'une famille de bretons, 100% chouchène bigouden, une famille unie mais agitée qui revient chaque année en juin depuis 2012 sur M6 et qui remplace durant l'été donc les couples de scènes de ménage. Le patriarche, c'est Jacques, un sage bougon qui a toujours l'air d'un marin pêcheur qui vient de garer son chalutier. Là, j'adore ce mec. La saison 6 a commencé le 19 juin et l'audience ne fait que grimper parce que les personnages sont très attachants et que le public peut s'identifier. La série a ainsi rassemblé avant-hier plus de 3 500 000 téléspectateurs, 17% du public de tous âges et près de 25% des fameuses ménagères responsables d'achat. Il y en a d'ailleurs 3 dans cette fiction. Hein. La grand-mère, ex-68 ans de Brigitte, maternelle mais faut pas pousser, et ses 2 filles, Roxane, la Wonder Woman mariée à Kader, et Marjorie, l'infirmière mère de 2 ados, qui a la main plus sûre pour piquer que pour trouver un mec bien. Là, elle sort avec le timide Olivier et ça ne fait pas l'affaire de son ex-soupirant qui fait une ultime tentative.
Dites-moi, vous vous souvenez de ça? C'est la Weekend Box que vous m'avez offerte pour mon anniversaire l'année dernière. Hein? Eh bien, elle est périmée dans une semaine.
C'est pas vrai.
Ouais. Voilà. Ah bah justement, je me disais que c'était dommage. Faut pas gâcher. Vous avez prévu quelque chose ce week-end?
Bah, oh, ça tombe mal ce week-end parce qu'on a prévu d'aller en Normandie avec Olivier.
Ah mince.
Mais enfin, ceci dit, rien n'est réservé. Hein.
Vraiment?
Oui.
Non, parce que regardez, il y avait des adresses très sympas là-dedans.
Ah, mais oui, mais je me souviens. Là.
Vous vous souvenez?
Oh bah oui, c'est tellement mignon.
Bah oui.
Oh, pour être bien là-bas.
Oui.
Puis s'il y a un petit lac à côté, on pourrait fermer là-bas. Pour pas gâcher, ce serait dommage.
Non, c'est ce que je me disais.
Vous êtes sûr que ça vous dérange pas qu'on est ensemble?
Qui?
Bah Olivier et moi, enfin...
Ah d'accord.
Oh, c'est adorable. Ah, on va en profiter un maximum. On vous dit un grand merci, Jean-Pierre.
Bah, on est content pour vous.
On qui?
On, moi.
Voilà, voici Marjorie avec sa sœur. Maintenant, elles vont subir un choc terrible.
Marjo,
Coucou.
Non, t'as regardé tes comptes récemment?
Non, pourquoi?
Parce que papa encaisse nos chèques.
Quoi?
Je lui ai emprunté 500 euros le mois dernier, donc je lui ai fait deux chèques de 250 euros pour qu'il les encaisse plus tard.
Oui, comme on fait d'habitude.
Exactement.
Oui.
Et bah, il vient d'encaisser le premier.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Mais si.
Oh, c'est pas possible. Attends, tu veux dire encaisser, retirer de ton compte et tout?
Oui.
Mais il a pas le droit de faire ça.
Mais non, bah non. Prêter, c'est prêter, reprendre, c'est voler. Je suis désolée. Hein.
Oh, 600 euros là, c'est ça?
Oui.
Il encaisse. Attends,
mais c'est pas possible. Je comprends pas.
C'est très simple, Marjo.
Voilà, c'est fini.
Que tu veux dire que ça y est, on va devoir se débrouiller?
On est toutes seules.
Abandonnées.
Tu crois qu'il va tous les encaisser?
Oh, je me sens pas bien.
À un moment, il faut savoir couper le cordon. Tous les cordons, même les cordons de la bourse.
Voilà, c'est un peu filmé comme la télé-réalité. Le personnage vient faire son petit commentaire à la fin. Donc, les Kervélec, une famille à côtoyer sans modération, en famille, à 20h25, chaque soir sur M6.
Et alors, c'est suivi de la finale de l'émission Le meilleur pâtissier spécial célébrité.
Oui, alors à ne pas confondre avec le meilleur pâtissier spécial amateur ou le meilleur pâtissier spécial professionnel, deux formats qui viennent juste d'être proposés sur M6. C'est franchement pas de la tarte de ne pas confondre. Mais le miracle, c'est que malgré la multiplication des programmes de dessert, honnêtement, pour moi, il y en a trop. Hein, c'est toujours pas un échec pour M6 avec quasiment 3 millions de fidèles, même si évidemment, c'est pas le spectaculaire succès de L'amour dans le pré. Hein. Le score devait être le même pour cette finale, dans laquelle on retrouvera Philippe Conticini, le champion du monde du secteur des pâtisseries. Et puis, bien sûr, il y a toujours Cyril Lignac. Mais alors, moi, ce qui m'embête avec Cyril Lignac, c'est que vu tout ce qu'il fait sur M6 et sur Teva, avec Sucrément Sucré, il a plus le temps de se lancer dans des croisades qui, moi, me plaisaient beaucoup, contre, par exemple, la malbouffe, les cantines scolaires ou le gaspillage alimentaire. C'est pas bien, ça.
Oui, on a fait pas mal d'escapades avec Philippe sur les cantines scolaires, le gaspillage alimentaire. Bon, on l'a fait, donc après, on y reviendra certainement. Il y a vraiment des choses à faire autour de la cuisine, dans le domaine du social, d'aider, d'accompagner. Donc, bien sûr que ça m'intéresse. Là, pour l'instant, on est dans cette vague d'émissions de pâtisserie. Avant, on était dans les vagues d'émissions de cuisine. Bon, chaque jour suffit sa peine, non? Comme dit l'autre. Soit qui dit ça. Comme dit l'autre. Je suis vraiment bon, c'est pareil. Mais là, c'est moi qui donne des cours sur la pâtisserie. Et ça, ça me plaît aussi. Tu vois, ce qui est bien, c'est que j'essaie d'avoir des choses assez hétéroclites. C'est-à-dire que le meilleur pâtissier, c'est pour les amateurs. Je suis très proche d'eux, je trouve ça génial. Le meilleur pâtissier, les professionnels, c'est un cran au-dessus avec une équipe de copains, chefs pâtissiers. Et donc, à ce moment-là, on avance avec eux. C'est un vrai concours. Sucrément bon, c'est vraiment la transmission du savoir. J'apprends à faire une tarte, à donner des recettes autour de la mousse, de tout ce que l'on peut faire. Et ça, c'est vraiment bien.
Voilà, donc la finale ce soir du meilleur pâtissier spécial célébrité.
Ben vous m'avez donné faim.
L'une des favorites pourrait être Camille Serre, l'ex-Miss France.
Allez, dans un instant, Julien Courbet.